Déstressez-vous en écoutant votre émission avec la gamme Déstress du laboratoire Synergia, expert du stress et de ses conséquences. Déstress ? Déstress.
Nutri-Therapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Bonjour docteur.
Oui, bonjour Fabrice, bonjour à tous.
Une émission aujourd'hui qui devrait vous faire réagir. Ça va piquer, ça va peut-être brûler, non pas du tout. On va parler de la douleur, mieux la comprendre. On a expliqué là les deux premières émissions, on est revenu sur l'inflammation, pourquoi elle est indispensable, mais aussi pourquoi cet équilibre dans notre corps entre les bonnes bactéries, les bons virus, les mauvais virus, tout ça c'est un savant dosage. C'est quelque chose vraiment de magique, mais qui peut se déséquilibrer soit du jour au lendemain, mais souvent c'est un travail au long cours, c'est une inflammation comme ça de bas grade qui après donne le lit et fait le lit de nombreuses infections, nombreux problèmes. Et vous avez terminé l'émission de la semaine dernière en disant mais j'aimerais quand même parler de la douleur.
Oui, parce que c'est la première plainte en médecine. C'est la plus grosse consommation de médicaments dans le monde, c'est les antalgiques. En 2022, rien qu'en France, les Français ont consommé 424 millions de boîtes de paracétamol. C'est à tomber par terre. Tous les antalgiques sont associés à des effets secondaires, dont certains, comme ceux du paracétamol, l'aspirine, les opioïdes, peuvent être mortels. Bon, tout le monde est au courant de cette fameuse crise des opioïdes. Là, entre simplement en 22 ans, hein, entre 1999 et 2021, aux États-Unis, 645 000 États-Uniens sont morts d'une surdose causée par des opiacés. Et les gens continuent à en mourir, à peu près au rythme d'une centaine par jour dans ce seul pays. Un de ces opioïdes, le fentanyl, est massivement produit en Chine, bon, dans des labos mexicains qui achètent la matière première aux Chinois, contrôlés par des cartels de la drogue. En France, la situation est moins grave, mais tout de même préoccupante, hein, parce qu'on a 12 millions de Français sous opioïdes, et même 11 millions de plus sous des opioïdes faibles, un peu de codéine comme ça, hein, voilà. Mais il y a quand même, en France, 5 décès par semaine en moyenne. Quant au surdosage en paracétamol, il est responsable de nombreux décès. C'est la première cause de greffe hépatique en France. En dehors des surdosages, le paracétamol entraîne un effondrement de ce glutathion dont on a parlé la semaine dernière, vous rappelez, l'allumeur des globules blancs. Mais c'est aussi notre détoxifiant général, détoxifiant universel. Donc ça engendre quand on prend du paracétamol et qu'on ne compense pas la baisse du glutathion, bon, d'abord on risque une insuffisance hépatique, greffe de foie, etc. C'est la première cause. Le suicide médicamenteux qui arrive en tête en Angleterre, c'est par le paracétamol. Hein, vous bouffez la boîte, c'est bon. Bon, je ne devrais pas dire ça parce que j'espère que personne est suicidaire à l'écoute là. Mais l'aspirine, elle, qui est l'autre antalgique le plus connu, bien sûr, inhibe l'absorption et augmente l'excision urinaire de la vitamine C. C'est pas le moment. Hein, la vitamine C, on en a jamais autant besoin que quand on a une inflammation, une infection. Bon. Et l'aspirine et les INS sont des causes majeures d'accidents hémorragiques. Ça érode, par exemple, le tube digestif, les gens font des saignements et ils peuvent en mourir. Donc, ce que je vous propose, hein, c'est dans la suite de voir ensemble pourquoi on a mal, pour que faire pour réduire au maximum l'usage des antalgiques et leurs effets secondaires indésirables.
On va voir ça dans un tout petit instant. Je suis encore sur le chiffre là, pas le chiffre, mais en tout cas la mise en cause et la responsabilité du paracétamol, première cause de greffe hépatique en France et responsable de nombreux décès. Oui, c'est vrai que parfois on prend ça de manière un petit peu comme si, comme s'il n'y avait pas d'incidence, évidemment. C'est pas le cas. Donc, on se retrouve dans un tout petit instant sur Nutri Radio. Et oui, donc on parle de douleur, on n'a pas envie d'avoir mal. On n'a pas envie d'avoir mal, docteur. Donc, juste des fois, c'est tellement horrible. Bon, on se retrouve dans un tout petit instant, juste après ceci.
Depuis plus de 20 ans, le laboratoire Synergia, pionnier en compléments nutritionnels, développe son expertise scientifique pour votre santé. Avec l'appui de médecins, nous créons des produits basés sur la synergie de micronutriments par une action optimale. Reconnus par les professionnels de santé, nous sommes les experts du bien-être et numéro 1 sur le marché des compléments du stress avec la gamme Déstress. Choisissez Synergia avec Déstress pour un quotidien plus sain et équilibré. Nutri-Therapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Le docteur Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio. Alors la question qui se pose, c'est sommes-nous tous devenus douillés ? Il me semble qu'à l'époque, quand même, il y avait une résistance à la douleur qui était beaucoup plus importante. Forcément, il y avait moins de médicaments. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas, quelque part, programmé inconsciemment que voilà, on ne devait pas du tout avoir mal.
Alors, oui, on n'aime pas la douleur, c'est clair. Mais il y a des douleurs quand même qui sont très importantes. Hein. C'est des douleurs qui sont informatives. Pour les neurologues, hein, la douleur est entre guillemets une expérience sensorielle et émotionnelle subjective. Mais bon, si quelque chose est piquant, brûlant ou très acide, bon, comme l'enfant qui approche sa main ou qui va brûler, si vous voulez, sur la plaque chauffante, il va retirer très vite sa main parce que on sent que cette chose peut nous blesser, détruire nos tissus. Ça nous donne une information comme quoi on a intérêt à l'éviter. Dès qu'on touche, il y a une information douloureuse qui nous renseigne sur sa dangerosité, en fait. Donc, l'information douloureuse, elle est indispensable, même vitale. La douleur nous renseigne aussi sur le fait que quelque chose ne va pas à l'intérieur de nous-mêmes, qu'il faut s'en occuper. Bon, alors, je vous rappelle un souvenir qui m'a vraiment frappé énormément tout au début de mes études de médecine. C'était à l'amphithéâtre de l'école de médecine rue des Saints-Pères à Paris. L'enseignant projette une radio de genou qui semble normale, et puis une deuxième où apparaît une bouillie d'esquille à la place du genou. On voyait bien que c'était la même personne, mais il n'y avait plus d'articulation, il y avait un mikado de micro-esquille, c'était horrible. Le haut du tibia et le bas du fémur s'étaient soudés en une masse chaotique indistincte, un broyat d'os. Il n'y avait plus d'articulation. Et le professeur nous dit, bon, ce genou appartient à une concierge, elle était tombée dans l'escalier et s'était fracturée, mais comme elle était alcoolique, elle n'avait pas ressenti la douleur, elle avait continué à marcher pendant plusieurs heures, bon, comme ça qu'elle a bousillé son genou. On pourrait probablement dire la même chose des douleurs psychiques. Hein. Si une situation vous amène à un état de mal-être, c'est quelque chose qui ne va pas. Hein. Il faut réévaluer un travail qui contrarie nos valeurs, une relation toxique. Bon, selon une enquête, 87% des Français n'aiment pas leur travail, pourtant ils continuent à le faire. Bon.
Vous, par exemple, vous n'avez pas faire ces émissions, pourtant vous continuez.
Je ne suis pas dans les 87%, mais vous non plus, Fabrice.
Ah bah non, pas du tout.
Heureusement, non. J'espère que parmi nos auditeurs, il y en a qui aiment leur boulot, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de tel que de faire ce qu'on aime. Bon. Et donc, les gens compensent, hein, ils se noient, comme cette concierge, dans l'alcool, dans la surbouffe, le tabac, la télé, les jeux vidéo, bon, les distractions variées et diverses, j'en passe des meilleurs, vous connaissez tout ça par cœur, ce qui leur donne le temps de broyer leur âme, hein, malheureusement, comme cette concierge a broyé son genou. Conclusion, il est important de pas simplement ignorer ou supprimer sa douleur, hein, même à coups dentalgiques, on a vu qu'ils peuvent être problématiques. On est content de les avoir quand on en a besoin, mais il vaudrait mieux limiter leur utilisation. Donc, il est important de commencer par écouter sa douleur, qu'elle soit physique, psychique, de voir ce qu'il y a à faire pour traiter sa cause. Hein. Les antalgiques, je le rappelle, de même que les anxiolytiques et les antidépresseurs, ne sont que des traitements symptomatiques, ils ne traitent pas les causes.
Ça, je pense qu'on l'a tous en tête, malheureusement, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, parce que la prévention, l'anticipation, et puis c'est pas toujours facile parfois d'avoir le bon diagnostic.
Il y a ça aussi, bon, il faut savoir d'où ça vient, c'est clair.
Jean-Paul, je sens que vous voulez que je vous relance, donc je vais le faire tout de suite, excusez-moi, mais j'étais...
Non, je vous en prie.
Parce que je vois qu'il y avait plein d'exemples, vous parliez de crampes douloureuses.
Par exemple.
Donc bon, ça, je voulais savoir si vous alliez revenir dessus, ou les petites douleurs dues à l'inflammation, par exemple une tendinite, etc.
Tout à fait, bon, on a une douleur musculaire, il faut chercher sa cause. Bon, par exemple, on peut se tenir mal devant son ordi, ou ça s'appelle l'ergonomie, il faut être à la bonne distance, bien assis, tout ça, bon, le bon éclairage, vérifier qu'il n'y a pas de déséquilibre musculo-squelettique, on peut consulter un ostéopathe pour se réharmoniser, se rééquilibrer, muscler pour les améliorer. Vous savez que la sécu, elle est claire là-dessus, pour une fois, c'est que le meilleur médicament du mal de dos, c'est remuscler les dorsaux et les abdos. Bon.
Et après,
Pardon ?
Non, je disais en réalité, parce que la douleur, rechercher la cause, c'est bien. C'est vrai que c'est efficace de prendre un antalgique, par exemple, mais est-ce que ça vaut la peine de rechercher la cause quand c'est de temps en temps ? Je pense que là où il faut vraiment chercher la cause, c'est quand c'est régulièrement, non ? Enfin, quand ça devient chronique.
Non, je pense que même un truc très ponctuel, bon, si on a mal au doigt, vous regardez si on ne s'est pas piqué ou s'il faut désinfecter. Et je pense que face à toute douleur est une information qui appelle à faire quelque chose. C'est fait pour ça. Hein. C'est fait pour pas se brûler, d'abord pour prévenir. Mais bon, et si on a mal, c'est pour attirer son attention sur l'endroit qui a été lésé. Il faut, ça veut dire, ton corps te dit, occupe-toi de moi.
Voilà, la douleur est une information. Ça,
Absolument.
c'est ce qu'on pensez à ça, déjà vous aurez moins mal. Alors, tiens, quelle est l'information qu'on me donne? Et donc,
Absolument.
peut-être revenir quand même sur sur ces douleurs chroniques, parce que vous savez, on parle de ces maladies chroniques qui en réalité cachent une espèce d'errance médicale aussi.
Oui, bon, et la fibromyalgie, on l'évoquera par exemple, qui est un cas typique, hein, que les médecins ont eu beaucoup de mal à diagnostiquer pendant longtemps, qui ont pensé que c'était dans la tête des gens, bon, alors que c'est une sorte de tendinite de corps totale. Bon, on a une tendinite même simple, hein, c'est le problème principal des sportifs, la tendinite. Mais si vous voulez, l'os, il ne se contracte pas. Le tendon, il se contracte pas, donc c'est forcément le muscle. Hein. C'est un manque d'échauffement, c'est une tension excessive dans le muscle qui peut être liée souvent à une carence en magnésium, hein, qui est un spasmolytique. Et du coup, pof, on a une crampe ou des tendinites, c'est la même cause. Donc, si on n'identifie pas ça, si on ne comprend pas le mécanisme, on ne va pas résoudre le problème. L'arthrose, c'est pareil, il faut la comprendre pour arrêter les douleurs et la dégradation de l'articulation. On reverra tout ça, puisque l'arthrose, ça fait partie de ces maladies inflammatoires. C'est une plaie, donc la plus petite qu'elle soit, ben, si on a mal, c'est parce qu'il faut désinfecter. C'est un appel du corps, on le dit de nouveau. Hein,
La douleur est une information. On marque une pause et on va se retrouver pour répondre à cette question. Quels sont les mécanismes qui provoquent ces douleurs? C'est juste après ceci.
Nutri-Therapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
La douleur est une information. Je le répète parce que je trouve que c'est une phrase importante et une bonne manière aussi. Voilà, d'appréhender, de la vivre, mais aussi ce qui nous oblige à aller déchiffrer cette information. Et donc, quels sont les mécanismes qui provoquent ces douleurs, Jean-Paul?
Alors, on va distinguer deux types de douleurs principalement, hein, ce qu'on appelle nociceptif, on va décrire ce que c'est, et neuropathique. Donc, nociceptif, c'est donc le renseignement, on l'a dit, sur la dangerosité d'une situation à partir de récepteurs. On a des récepteurs sensitifs, qu'on appelle aussi nocicepteurs, qui se trouvent partout en périphérie de notre corps. C'est justement ce qui nous permet d'éviter les piqûres, les pressions, les brûlures, etc., des étirements excessifs. Les fibres des nerfs qui remontent cette information sont des nerfs spéciaux qui sont gainés d'acides gras pour transmettre très vite l'information, hein, parce que c'est crucial que l'information soit rapide pour éviter le traumatisme, la brûlure, etc. Et ce qu'on appelle la myélinisation, hein, c'est l'enrobage de graisse de ces neurones pour que ça aille très vite. Et bon, il y a plusieurs types de ces nocicepteurs, mais bon, c'est trop technique, on ne va pas s'étendre trop. Bon, il y en a qui sont profonds, hein, présents au niveau des muscles, des tissus qui entourent les articulations, les muscles lisses des viscères, les parois, les vaisseaux. Il y a des organes qui ne peuvent pas avoir mal, hein, par exemple le cerveau. Vous savez que si on opère sur le cerveau, hein, les chirurgiens en neurologie, ils peuvent opérer sans anesthésie. Ils parlent avec leurs patients pendant qu'ils opèrent leur cerveau parce que le cerveau n'a pas de nocicepteur. Donc, on peut avoir mal aussi parce qu'il y a des spasmes, des distensions, comme dans la migraine, des artères enflammées se contractent et se dilatent, des coupures de la circulation, ce qu'on appelle l'ischémie, comme dans l'artérite des membres inférieurs. Bon, si on regarde notre peau, hein, regardez votre peau, 1 cm², c'est pas beaucoup. Bon, eh bien, il y a 200 nocicepteurs par centimètre carré de peau. Et donc, on en trouve aussi donc, à l'intérieur, dans les muscles, dans les parois, des viscères. Ils s'organisent dans des réseaux qu'on appelle plexus. Alors, les médiateurs de l'inflammation, ils touchent pas seulement les cellules et les vaisseaux. On l'a vu dans le rhume, on a le nez qui coule et la chaleur, la rougeur, mais affectent aussi ces nocicepteurs et les terminaisons nerveuses. C'est pour ça qu'on a mal en cas d'inflammation. Et ça, on sait maintenant pourquoi, parce que l'inflammation augmente des neuropeptides générateurs de douleur qui s'appellent substance P et bradykinine. Bon. Heureusement, Maintenant qu'on les a identifiés, on a pu chercher des antagonistes, des choses qui peuvent réduire la sécrétion de ces neuropeptides, par exemple le magnésium. Bon, on en reparlera bien sûr, parce que là, on fait le tour du tableau des dégâts, mais bien sûr, on va après s'étendre beaucoup plus sur les solutions. Bon, une blessure peut devenir plus sensible, les régions traumatisées ou infectées deviennent hyperalgiques à cause de l'inflammation, même les effleurés peuvent se révéler insupportables, on a tous connu ça. Il ne faut donc pas masser des zones inflammées. Par exemple, les ostéopathes, si vous avez beaucoup d'inflammation, ils vous disent revenez la semaine prochaine quand ça sera calmé, parce qu'ils ne veulent pas intervenir quand il y a inflammation. Ça peut aggraver les choses. Par contre, si on active ces fibres dédiées à ressentir les contacts par des massages ou des faibles stimulations électriques dans des zones non enflammées, alors le passage d'informations dans les grosses fibres nerveuses entre en concurrence avec les autres. Hein, par exemple, si un enfant se cogne, il faut pas l'immobiliser, faut pas lui dire arrête de pleurer, il faut lui frictionner le dos, il faut l'encourager à crier, au contraire à se rouler par terre, ce que beaucoup d'enfants font spontanément en fait. Hein. Pourquoi? Parce que plus il y a d'informations sensitives, probablement motrices, qui sont générées, moins il y a de place dans le câblage de la moelle épinière, hein, qui relie tout notre corps au cerveau, pour les informations douloureuses. On rapporte qu'en temps de guerre, des soldats qui ont reçu des éclats d'obus dans la cuisse, par exemple, s'en aperçoivent pas tant qu'ils sont dans le combat, et tout à coup, ils se mettent à hurler parce qu'ils s'arrêtent.
Et donc, c'est pour ça aussi que quand on a une douleur comme ça, il y a des gens qui ont tendance à insulter, un peu comme le Père Noël est une ordure. Vous savez, quand Thierry Lhermitte se coince le doigt, là, il commence à insulter, et hop, ça fait du bien.
Oui, absolument. Tout, quoi qu'on fasse, il faut s'agiter, bouger, hurler s'il faut. Mais, par exemple, quand une femme accouche, il y a des obstétriciens qui n'aiment pas que les femmes crient. Ben, c'est une erreur. Plus elle crie, plus elle va. Ça va divertir, si vous voulez. De toute activité autre que et on verra, c'est un peu aussi ce que fait l'hypnose. Hein. Dans l'hypnose, on détourne l'attention et ça marche très bien, on va le voir.
Les activités physiques, vous dites, ça peut être un médicament de première intention?
Voilà, parce que l'activité physique, comme la roulade par terre de l'enfant qui s'est cogné, toute activité physique, alors... que ce soit en prévention ou en traitement de pathologie, marche très très bien. On a des études là-dessus qu'on verra tout à l'heure, je crois. Voilà. Et puis il y a la deuxième catégorie de douleurs, les douleurs dites neuropathiques, qui sont très différentes parce que c'est un tout autre mécanisme, c'est pas les nocicepteurs qui sont stimulés, c'est les nerfs qui sont endommagés. Donc des nerfs peuvent être traumatisés, tirés, comprimés, touchés par excès d'alcool, des maladies comme le diabète, dans la sclérose en plaques. Donc il y a beaucoup de causes de tout ça, qu'on verra précisément pour éviter tout ça. Par exemple, le fait de boire trop d'alcool, ça surutilise des vitamines B qui sont nécessaires pour métaboliser l'alcool. Bon, donc c'est pour ça que les alcooliques ils font ces dégénérescences nerveuses avec des douleurs des nerfs terminaux. Mais bon, c'est un autre mécanisme dans le diabète. Les chimiothérapies peuvent faire ça. Bon, donc la sclérose en plaques. 50% des patients ont ces douleurs liées à une hypersensibilisation. Hein. Les patients se plaignent c'est souvent des femmes, hein, plus dans la sclérose en plaques, d'une perception anormalement exagérée des stimuli qui peuvent aussi perturber le sommeil. Les névralgies faciales, qui sont une des douleurs les pires aussi qui existent, qui ont souvent une composition psychique aussi, une composante psychique. Et puis les fameuses, vous vous rappelez qu'on a parlé du fait que l'inflammation était utile pour cicatriser, pour guérir d'une attaque, que ce soit traumatique ou de brûlure ou de microbes. Mais dans certains cas, si l'inflammation est trop intense et trop persistante au-delà de ce qu'il faut, ça va faire l'effet inverse, ça va perturber tous les tissus autour. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on appelle l'algodystrophie, des gens qui se fracturent ou qui ont été opérés et qui ne consolident pas leur os, qui ont des rougeurs, des inflammations, des œdèmes, des gonflements, c'est douloureux. Et là, malheureusement, c'est hyper chronique. Et c'est, comme on l'a dit, très difficile à gérer. Le fait de fumer, la nicotine est un vasoconstricteur très puissant, est un facteur majeur de cette algodystrophie. Donc la semaine prochaine, on va rester sur la douleur. Je vais vous proposer, bien sûr, des solutions. Hein,
Eh ben oui.
Comment on peut prévenir, réduire les douleurs sans avoir forcément à devenir dépendant d'antalgiques médicamenteux qui sont utiles ponctuellement, bien sûr, hein. On n'a pas envie d'avoir mal, mais bon, si on est obligé d'en prendre tout le temps, à long terme en tout cas, c'est vite dangereux.
Oui, on l'a vu pour toutes les raisons que vous nous avez détaillées. Donc, douleur neuropathique, douleur nociceptive, différence, donc c'est qu'il y en a une qui provient, enfin il y en a les douleurs nociceptives proviennent de la stimulation des récepteurs, de la douleur en réponse à des blessures ou des inflammations des tissus, c'est ça, hein, tandis que...
Voilà, la douleur information.
Voilà, elles vont résulter d'une lésion ou d'un dysfonctionnement du système nerveux lui-même, avec des sensations donc douloureuses anormales, mais sans stimulus extérieur. Voilà, en gros.
Exactement.
Vous allez pouvoir retrouver cette émission à partir de 18h en podcast. Je vous invite vraiment à la réécouter et surtout à la conseiller, à la partager et même à la commenter. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul Curtet. Et la semaine prochaine, donc, on a hâte de savoir comment on va pouvoir résoudre cela de manière naturelle avec l'alimentation, avec certainement la complémentation et des actifs intéressants, en rappelant toutefois que les informations que l'on vous donne ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement, bien évidemment. Au revoir Jean-Paul.
Allez, au revoir, bonne semaine et on vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
Nutri Therapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.